Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Présence à l'écoute d'un nouveau numéro de Métropolez-vous. Salutations spéciales à ceux qui découvrent cette émission. Le gouvernement, par la voix de son Premier ministre, a annoncé en fin de semaine dernière que le pays ne serait pas reconfiné dans l'immédiat. Même si nous savons tous que cette hypothèse n'est pas à écarter dans les semaines qui viennent, loin de là, une décision qui ne change pas grand-chose concernant de nombreux secteurs d'activité fermés au public depuis des mois et qui vont donc le rester sans doute pour de nombreuses semaines encore. C'est le cas des lieux culturels, au grand désespoir des artistes, des directeurs de salles de théâtre, de concerts, de cinéma ou de musées et de tous les citoyens pour qui la privation de sorties culturelles est un crève-cœur. Alors, que font ces lieux pour rester tout de même en relation avec le public pendant la crise sanitaire? Eh bien, plusieurs d'entre eux proposent des activités, des visites virtuelles et même des concerts en ligne sur leur site web respectif ou sur les réseaux sociaux. C'est le cas de quelques établissements toulousains, métropolitains, et c'est ce que je vous propose de découvrir lors de ce numéro largement consacré à la culture en ligne dans la métropole toulousaine pendant la crise sanitaire. Et mon invité pour évoquer la culture en ligne, c'est Francis Grasse, adjoint à la culture du maire de Toulouse, conseiller métropolitain et membre de la commission culture de Toulouse Métropole. Bienvenue à vous aussi et merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais qu'on précise d'emblée un point avec vous. On sait que plusieurs structures et établissements culturels ont basculé dans le giron de Toulouse Métropole ces dernières années. Est-ce que vous pouvez nous rappeler lesquels pour que nos auditeurs comprennent bien ceux qui relèvent de la ville de Toulouse et ceux qui relèvent de la métropole en termes d'administration et de soutien financier.
Bonjour d'abord, bonjour à vous Eric et bonjour à tous. La culture historiquement a été portée par essentiellement la ville de Toulouse, c'est l'histoire qui veut ça. Avec le phénomène de communauté d'agglomération puis métropole, la loi sur les métropoles a fait en sorte que les principaux établissements culturels soient portés par la métropole. C'est le cas depuis 2015, du Zénith, de l'Orchestre et du Théâtre du Capitole, du Muséum d'Histoire Naturelle, de la Cité de l'Espace, de l'ensemble des établissements de culture scientifique dont j'ai la charge, Aéroscopia, l'Envol des Pionniers, le tout nouveau, le Quai des Savoirs qu'on a créé, et puis bien sûr le Muséum Historique que j'ai déjà cité. Donc voilà, c'est une sorte de partage. La culture reste de la compétence des communes. Il n'y a pas de compétence culture à la métropole, c'est uniquement les établissements qui ont été transférés.
Et donc, à titre personnel, quel est votre rôle en ce moment en pleine crise sanitaire qui dure depuis près d'un an maintenant? Beaucoup de lieux sont fermés de façon prolongée. Et je suppose que c'est très anxiogène dans le milieu et qu'on vient souvent frapper à votre porte.
Oui, bien sûr. Je dirais frapper à ma porte ou simplement c'est moi qui prends contact avec les acteurs culturels, alors, y compris internes, parce que vous savez que la mairie de Toulouse ou la métropole sont un acteur culturel. Nous portons les musées, les bibliothèques. Au passage, je rappelle que les bibliothèques sont les seuls établissements qui sont ouverts. Mais je dirais, on est un acteur culturel avec les bibliothèques, les musées, les établissements de culture scientifique, l'orchestre et le théâtre du Capitole, les archives municipales, j'y reviendrai. Et puis, tous les acteurs externes dans le spectacle vivant, dans les arts plastiques, dans la danse, la musique en général. Enfin, on a aujourd'hui, sans citer tout, énormément d'acteurs, puisque Toulouse a cette caractéristique d'être extrêmement diverse. Et en matière de culture, on a tous les domaines et à un niveau d'excellence reconnu. Voilà, Toulouse est une ville dynamique en matière de culture.
Une chose importante, on peut peut-être aussi parler avec vous, vous êtes en charge de la partie mécénat à la culture.
Oui.
Alors on peut évidemment se poser la question, compte tenu de la situation, et notamment pour après la crise sanitaire, est-ce que c'est un secteur, le mécénat, qui pourrait, alors pas prendre le relais bien sûr des collectivités publiques, mais est-ce que ce secteur s'est maintenu pendant la crise sanitaire, est-ce qu'il pourrait peut-être se développer encore plus après?
D'abord, un chiffre pour situer les choses. Le mécénat, puisque j'ai en charge ce domaine, est important. L'an dernier, 2020, malgré la crise, on a eu environ 1 500 000 euros de mécénat. Pour vous donner un ordre de grandeur, la culture, c'est 150 millions d'euros de budget.
Donc c'est 1%.
Donc vous voyez que c'est 1%. Donc déjà, ce qu'on peut dire, c'est que le mécénat ne peut pas prendre le relais de la culture. C'est impossible. Par contre, il est important parce que, d'abord, avec le mécénat, nous faisons des plus, c'est-à-dire des choses que nous n'aurions peut-être pas pu financer nous-mêmes. Je prends des exemples comme des installations au musée Saint-Raymond, au Jacobin ou à l'Envol des Pionniers, par exemple. C'est donc un plus et un supplément. Et aussi, l'avantage du mécénat, c'est qu'il permet, au travers des entreprises, de toucher un public large et d'impliquer des salariés dans des projets culturels. Lorsque, par exemple, Une entreprise comme Altran nous aide à faire le simulateur de vol du Breguet 14 à l'envol des pionniers. Il y a les salariés, puisque c'est du mécénat de compétences, qui se développe. Ils participent au projet culturel.
Et c'est très valorisant
donc,
pour eux.
C'est valorisant pour eux, c'est une fierté pour eux, pour leurs collègues. Et donc, c'est une implication de l'entreprise. Et c'est un élargissement, où je prends l'exemple d'AIDA, qui représente une centaine d'entreprises qui soutiennent leur caisse du Capitole. C'est les salariés de ces entreprises qui peuvent accéder à la musique classique. Donc, on élargit les publics et on transfère un portage de la culture par le plus large public.
Mais au-delà du mécénat, il y a un aspect social évidemment très important. Alors, on va parler maintenant de ces structures culturelles toulousaines et métropolitaines qui ont choisi de proposer des événements ou des activités en ligne sur leur site web. Alors d'abord, est-ce que c'est une décision individuelle propre à chaque établissement ou est-ce qu'il y a une réflexion qui a été menée au niveau métropolitain ou de la mairie de Toulouse ?
Si vous voulez, quand le premier confinement est arrivé, on a été évidemment tous pris de court et il a fallu prendre un certain nombre de mesures de sécurité, de conservation, de mise en état de nos installations étant fermées au public. Parce qu'un même musée, même s'il est fermé, il faut quand même garantir sa sécurité. Voilà, c'était des mesures très pratiques. Et puis, très vite, chacun des établissements internes à la mairie, mais aussi à l'extérieur, des acteurs culturels, ont imaginé des solutions, passant par le numérique notamment, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont une pratique du numérique dans nos équipes importantes, et nous avons vu fleurir beaucoup d'initiatives, et c'est ça qui est réconfortant, c'est qu'une envie de tout le monde de rebondir autrement. Alors évidemment, à l'époque, on ne savait pas quand ça s'arrêterait, on ne savait pas qu'il y aurait une ouverture, mais après un reconfinement, enfin, on a vécu une année évidemment très chaotique. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a imaginé de nouvelles formes de diffusion par le numérique. Mais si je prends des exemples, quand les archives mettent à disposition un certain nombre de documents que personne ne voit trop via le numérique, c'est une découverte de documents, d'objets. Mais quand c'est l'Orchestre du Capitole, pour prendre cet autre exemple, on est plus dans quelque chose de vivant. Ça veut dire que le fait de diffuser un concert sur Internet permet aussi aux musiciens de s'exprimer. Parce que sinon, dans la première partie de l'année dernière, les musiciens étaient chez eux. Alors certes, ils peuvent travailler à leur instrument, mais il y a cette frustration de ne pas être en contact avec le public. Alors là, c'est un exemple où l'orchestre travaille. L'orchestre est au travail. Donc c'est très important. C'est la même chose pour des équipes de théâtre qui travaillent aujourd'hui. On dit la culture est à l'arrêt. Non, la culture n'est pas à l'arrêt. Parce que beaucoup de troupes travaillent, répètent, parce que même si on ne sait pas ce que sera l'avenir, tout le monde a envie d'être prêt. Alors, c'est quelquefois frustrant d'avoir travaillé et puis au dernier moment, on sait qu'on ne peut pas le faire.
Mais c'est arrivé plusieurs fois, malheureusement.
Et
oui.
Voilà, c'est arrivé plusieurs fois. Donc, on a besoin d'entretenir le moral des équipes, des professionnels, des structures culturelles. C'est plus une question de mental, je dirais, qu'il faut se maintenir vif. Mais il faut qu'on maintienne le travail. Par exemple, les expositions qu'on a préparé au Quai des Savoirs, par exemple, avec Delamour ou Magie et Sorcellerie au Muséum, toute l'année dernière, on les a préparées. Et elles sont prêtes. C'est-à-dire que si demain matin, alors malheureusement, je crois que ça ne va pas être demain matin.
Non, ni même après-demain matin.
Ni même après-demain, mais espérons dans quelques semaines ou quelques mois, nous pouvons ouvrir, elles sont prêtes. On ne va pas se dire, tiens, on ne l'a pas fait, elles sont prêtes. Donc, nous avons une capacité de rebond. Donc, il y a bien sûr Internet qui a permis de diffuser. Il y a le travail qui se fait de manière cachée. Et je crois que c'est très important de voir que la culture est quand même en action, même si le public est frustré de ne pas y accéder, et que les artistes eux-mêmes sont frustrés, parce qu'un acteur de théâtre ou un musicien, il a quelque part besoin du public.
Ah oui.
C'est interactif. Et puis je crois qu'il faut qu'on ait en tête que, bien sûr, je connais tous les bienfaits d'Internet et du numérique, mais la culture vivante, c'est celle qui transmet l'émotion. Vous avez un concert en salle ou un concert sur Facebook, vous n'avez pas la même qualité de son, c'est pas la même interaction, pas la même émotion transmise. La culture, c'est aussi de l'émotion.
Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter les propositions en ligne et les thématiques qu'on peut consulter sur les sites web des établissements culturels toulousains et métropolitains ? Vous en avez évoqué quelques-uns. Alors, le muséum, pour commencer. Alors, j'ai dit qu'il y avait le monde des sorcières, je ne sais pas ce que c'est.
Alors, le muséum a une formidable exposition que j'espère on verra bientôt, qui s'appelle Magie sorcellerie, et qui regarde comment ces sujets, au travers des âges, se sont transmis. C'était quoi la sorcellerie ou la magie ? Et tout ça, c'est pour fondamentalement distinguer le croire et le savoir. Et on est au cœur d'une réflexion, y compris scientifique, et c'est la fonction du muséum et des établissements de culture scientifique, d'éveiller à la compréhension des phénomènes. Et on sait qu'aujourd'hui, on voit à quel point il y a une crédulité incroyable sur des choses qui sont des non-sens, et il est très important de pouvoir développer l'esprit critique, et cette exposition est sur cette thématique, croire ou savoir.
Alors, il y a autre chose qui est proposée par le muséum, c'est carrément une visite privée en ligne faite par le directeur lui-même, Francis Duranton. C'est vraiment une visite, y compris dans des lieux auxquels le public n'a pas accès habituellement, les réserves par exemple.
Par exemple, parce que le muséum a des réserves considérables, mais comme les musées, comme les Augustins, ont des réserves énormes qu'on ne voit pas en public. Donc l'idée par Internet dans cette période de valoriser y compris les réserves, c'est une idée très intéressante. Et puis Francis Duranton, qui est le directeur du muséum, est un formidable pédagogue.
Ah oui, c'est un passeur extraordinaire.
Je dirais que là-dessus, on a vraiment une visite privée qui vous est faite. Et j'encourage tout le monde à le faire. C'est la même chose pour le musée Saint-Raymond, qui a mis en ligne une expo, alors elle en 3D, de l'expo sur les Visigoths, qui est une
très belle exposition
ouais. qui a nécessité un travail très important sur cette période très méconnue de Toulouse, des rois Visigoths à Toulouse. Voilà un exemple. On a la même chose au musée des Augustins, où on peut voir des œuvres qui sont dans les réserves. Donc, je crois que nos musées ont vraiment été très dynamiques sur cette capacité d'utiliser Internet.
Alors, vous évoquiez à travers l'exposition « La magie et sorcellerie du muséum », ce qu'on appelle aujourd'hui les fake news, c'est à ça que vous faisiez allusion,
oui,
je pense.
Exactement.
Et au Quai des Savoirs, donc juste à côté du muséum, on peut faire des expériences scientifiques en ligne. Bon, ça, je pense que ça s'adresse plutôt aux plus jeunes.
Oui.
Mais il y a aussi des podcasts sur la thématique des fake news scientifiques.
Alors, on a effectivement, le Quai des Savoirs a développé toute une série de podcasts qui est une forme de média, finalement, aujourd'hui, qui marche très bien. Sur différentes thématiques, parce que là, le Quai des Savoirs est là pour parler de l'ensemble des sciences et de technologies. On est généraliste au Quai des Savoirs, et notamment l'accès à la science, la compréhension. On voit bien, cette année de crise sanitaire a démontré des choses incroyables, à quel point on peut se défier, y compris de la science, maintenant. Donc, il y a besoin de faire ce travail fondamental, mais de manière simple, pédagogique, ludique. C'est ça, la capacité du Quai des Savoirs.
Donc ça, site en ligne du Quai des Savoirs pour la thématique des fake news scientifiques et les podcasts qui leur sont liés. Cité de l'espace aussi, alors chose intéressante, apparemment on peut découvrir avec un astronaute qui s'appelle Mathias Maurer. Lui, il va avoir son baptême spatial en 2021. Alors qu'est-ce qui est proposé en fait?
Ce qui est proposé, c'est de découvrir l'astronaute, hein, parce qu'aujourd'hui... Les astronautes sont presque banalisés parce qu'on en parle à peine. Alors on a eu le phénomène de Thomas Pesquet parce qu'il était français, mais on n'en parle presque plus, mais ça reste toujours un exploit, à la fois technologique et humain, avec toute la préparation physique, mentale, technique. Donc je crois que ça reste néanmoins des exploits de très haute intensité. Je crois que c'est toujours intéressant de montrer l'homme, la préparation, l'avant, et puis après on a le pendant quand les...
Et il y aura le retour
après, bien sûr, le retour.
Le retour sur Terre. Il y a aussi ce qui est proposé, alors ça très intéressant, en 2019 on fêtait les 50 ans des premiers pas de l'homme sur la Lune et on peut les revoir en vidéo, via une vidéo en tout cas,
oui,
disponible
bien sûr, parce que,
sur le site de la Cité de l'Espace.
L'événement de la conquête de la Lune a été fêté l'an dernier, enfin il y a 2 ans plutôt, et aujourd'hui on a évidemment des documents qui ont été mis en scène quelque part avec des films et des vidéos très intéressante sur la conquête de la Lune. Puis après, à terme, on travaillera aussi sur la conquête de Mars et tous les sujets qui font rêver, qui vont être des thèmes, évidemment, à la Cité de l'Espace.
Alors, on parlait il y a quelques instants de l'envol des pionniers. Il y a une expo temporaire qui est prête, je crois, malheureusement, qui n'a pas pu être ouverte, sur Antoine de Saint-Exupéry.
Alors, elle a été un peu ouverte quand même, peu de temps. Mais c'est une expo qui a été réalisée avec la famille d'ailleurs Saint-Exupéry et la fondation Saint-Exupéry sur cet homme évidemment exceptionnel par à la fois son volet aérien mais aussi littéraire
bien sûr.
Et son ancrage à Toulouse parce que il a quand même passé une bonne partie de sa vie à Toulouse. Eh bien, cette expo est formidable parce qu'elle est... Vous savez que l'envol des pionniers a une expo permanente sur l'histoire de l'aéronautique à Toulouse. C'est-à-dire comment on est parti de l'ATCOR jusqu'à ce qu'est l'aéronautique aujourd'hui. Comment ça s'est fait? Comment ça s'est construit? C'est une aventure assez extraordinaire. Et elle n'est pas toujours bien connue de tous les Toulousains. Et deuxièmement, on a un espace qui est fait pour des expos temporaires qui tourneront sur des thématiques qui varieront. Et en ce moment, c'est effectivement sur la vie de Saint-Exupéry. Et c'est une expo tout à fait remarquable, avec des documents, bien sûr, photographiques, mais visuels, audio, vidéo, enfin cinéma, on va dire, ou télévision de l'époque. Une expo tout à fait remarquable.
Antoine de Saint-Exupéry, un petit prince parmi les hommes, c'est le titre de cette exposition. Et puis donc, l'âle de la machine, alors là aussi, il y a des propositions en ligne. On peut vraiment découvrir tout l'univers d'Astérion, le Minotaure, et puis toutes les autres machines, les géants mécaniques de la machine.
Bien sûr, parce que la thématique de la machine que nous avons installée il y a maintenant plus de 2 ans, à Montaudran, c'est les machines avec des créations visuelles et artistiques tout en étant très technologiques. Et la capacité de François Dalrosière, c'est d'animer ces machines et d'en faire des spectacles. Alors, tout le monde a en tête ce formidable spectacle, Le Gardien du Temple, qu'on a eu il y a maintenant presque 2 ans. Et donc, on en a gardé des images absolument fabuleuses. Ces images ont été montées, elles ont été évidemment conservées, et on a la possibilité de voir en direct. Et puis, François Dalrosière nous propose aussi en images d'autres machines qui ont pu se développer ailleurs, et c'est le cas par exemple de Longma, qui est ce dragon chinois, ou d'autres animations qui ont pu avoir lieu à l'étranger. Donc voilà, c'est pour montrer qu'ici à Toulouse, on a maintenant un savoir-faire culturel et technique en même temps, très important. Évidemment, pour l'instant, on a envie de le revivre en vrai, mais il faut attendre un peu.
Il faudra attendre. Donc oui, il y a des vidéos de spectacles, des activités créatives pour les jeunes, puis des choses sur les secrets de construction des machines, des spectacles de la compagnie. C'est sur Facebook et Instagram. Alors, on a parlé de l'Orchestre National du Capitole. Alors ça, il faut parler parce que les concerts sont diffusés donc en direct sur la page Facebook ou la chaîne YouTube de l'orchestre, mais c'est l'équipe de la Lograin qui les réalise. Hein. C'est pas sous-traité, c'est vraiment l'équipe sur place qui les réalise.
Oui, je voudrais donner un coup de chapeau à l'équipe technique de l'Orchestre du Capitole et du théâtre, parce qu'ils ont aussi filmé le ballet récemment, à Noël, parce que petit à petit, ils ont su développer un savoir-faire assez impressionnant. Alors évidemment, il y a les moyens techniques qui vont avec, sur lesquels on a investi progressivement, parce qu'il faut des régies, il faut de la technique derrière. Hein. Ça ne se fait pas comme ça avec juste des caméras.
Non, c'est très difficile de filmer.
Il faut savoir quand même que filmer un concert, c'est pas filmer une scène quelle qu'elle soit. C'est qu'il y a tout un savoir-faire de régie pour orienter les prises de vue en fonction des instruments qui vont jouer, des solistes. Bon, ce savoir-faire, il a été acquis progressivement, y compris au contact de sociétés professionnelles comme France Télévisions, comme Mezzo, comme Medici. Et je dirais, petit à petit, il y a un savoir-faire qui s'est créé. Et franchement, aujourd'hui, on en a le résultat et on peut en être très heureux pour l'orchestre et pour les Toulousains, mais aussi pour le monde entier, parce qu'on s'aperçoit que nos diffusions, on en est à 5 concerts diffusés, il y en a un autre samedi prochain, 250 000 vues, c'est incroyable. Et quand on regarde qui voit ou qui font les commentaires, on en a qui viennent de Stockholm, de Montréal, d'Asie, de France entière évidemment. Donc on voit que notre rayonnement est très important dans le monde entier et on touche un public extrêmement large.
Oui, c'est plus de 50 000 vues, je crois, par concert entre Facebook et YouTube.
50 000 vues par concert.
Et c'est un des rares grands orchestres dans le monde qui propose ça, hein, régulièrement.
Oui, alors tout le monde, beaucoup de gens essayent de faire des choses, mais je pense que là, on a quelque chose de régulier, de construit, de présent, ce qui permet à l'orchestre de continuer son travail, comme j'ai expliqué, d'accueillir des solistes, d'accueillir des chefs d'orchestre. Donc franchement, c'est motivant. Alors évidemment, c'est pas notre rêve de rester sur Internet, hein, vous le comprenez, mais néanmoins, je crois que c'est très présent pour tous les publics.
Et puis pour la visibilité aussi, ne serait-ce que de la ville de Toulouse à travers son orchestre.
Oui, c'est là qu'on voit que l'Orchestre du Capitole est un formidable ambassadeur, hein, dans le monde entier. La musique est une sorte de langue universelle et on le mesure vraiment là.
Alors, il y a d'autres lieux qui proposent des choses en ligne, évidemment les bibliothèques, la médiathèque.
Oui, bien sûr. Alors, vous savez qu'on a, pendant les périodes de confinement, on a réussi à mettre au point ce qu'on appelle des drives. Alors, j'aime pas trop ce mot anglais, mais c'est le mot consacré, qui a permis de pouvoir en ligne commander des ouvrages ou des disques et de venir les chercher. Donc, ces systèmes perdurent. Donc, ce système de commande en ligne, qui a été mis au point spécifiquement, se poursuit. Et beaucoup de gens l'utilisent, ça marche bien. Et ceci étant, les bibliothèques et la lecture publique à Toulouse a été assez pionnière dans la diffusion du numérique, puisqu'on a depuis longtemps de nombreux services d'accès à la presse, de cours de langue, il y a le domaine de la musique également, il y a des conseils musicaux, des conseils de lecture. Enfin, le domaine numérique par les bibliothèques a toujours été très important. Et nous allons plus loin, puisque en ce moment, nous travaillons, enfin, on avait initié ça il y a maintenant plus de 2 ans, dans le cadre de la charte de lecture publique que j'avais eu l'occasion de mettre au point avec Denis Buisse à l'époque, qui a été adoptée par toutes les communes de la métropole, nous voulons créer un portail numérique métropolitain. C'est-à-dire que ça ne soit pas seulement la ville de Toulouse, qui avait évidemment plus de moyens, qui offre des services, mais vraiment qu'on ait un portail métropolitain accessible de l'ensemble des communes de la métropole.
Un mot aussi sur le Soirano, qui il y a quelques semaines a proposé quelque chose en extérieur, c'est-à-dire les comédiens étaient sur le plateau à l'intérieur et en vidéo, on pouvait les voir, bien, donner un spectacle. 200-300 personnes sur le parvis du Soirano pour assister à cette projection en extérieur.
Oui, c'est un exemple aussi d'une belle initiative de Sébastien Bornac et de son équipe, qui est une équipe dynamique. Un travail qui avait été fait, c'était dommage de le perdre, ils ont mis un écran dehors. Et il y avait, vous le disiez, 200, 300 personnes. Je peux vous dire qu'il faisait froid, j'y étais. Il faisait pas chaud et les gens sont restés tout le temps.
Ben oui, oui.
Ça montre qu'il y a une envie.
Il y a une soif, évidemment.
Et que c'est une très belle initiative. Évidemment, c'est ponctuel, mais c'est pour montrer que le travail continue, qu'on est présent et qu'on s'occupe du public.
Alors, après ces différentes présentations, on a parlé un petit peu de la situation actuelle des lieux culturels dans la métropole et des soutiens qu'apporte Toulouse Métropole. Est-ce qu'il y a des lieux qui, selon vous, peuvent être en danger financièrement aujourd'hui, ou est-ce qu'il n'y a pas trop de craintes à l'heure actuelle? Évidemment, on ne sait pas comment la situation va évoluer.
Ce qui est paradoxal actuellement, c'est que la culture se sent, si ce n'est en crise, en tout cas, elle est frustrée de ne pas pouvoir se produire vis-à-vis des publics, et une grande partie des publics ressentent ce manque. Tous les élus culture de France, on était réunis il y a quelques jours, la semaine dernière. On souhaite que les lieux culturels soient traités comme tous les lieux. Ils ne sont pas plus dangereux que d'autres, mais on souhaite une forme d'égalité de traitement des lieux culturels. Pour l'instant, on est toujours bloqué. Par ailleurs, on a été, dès le début du confinement l'an dernier, très attentif à maintenir les subventions à tous les acteurs culturels que nous aidons. Et à l'époque, on ne savait même pas si ça allait durer, pas durer. Mais ça a été un acte symbolique et fort pour dire on veut soutenir les acteurs, on veut soutenir les artistes, même si les spectacles n'ont pas lieu. Ensuite, on a mis au point, puisque vous parliez d'acteurs éventuellement en danger, ça peut arriver, puisqu'on a mis au niveau de la métropole un fonds de soutien de 3 millions d'euros, ce qui est un tiers de nos subventions annuelles quand même, pour soutenir d'éventuelles 6 structures en danger, parce qu'on ne veut pas voir disparaître des structures importantes à Toulouse. Actuellement, ce fonds a été utilisé à peu près à la moitié, ce qui veut dire que ça n'a pas été non plus un raz-de-marée de demandes, c'est des demandes ciblées qu'on examine au cas par cas. Paradoxalement, beaucoup de spectateurs qui avaient réservé des places, les spectacles n'ont pas eu lieu, et beaucoup d'entre eux n'ont pas demandé le remboursement.
C'est devenu des dons, en quelque sorte.
C'est devenu un don, de fait. Et ça a été spontané, et je pense que c'est très réconfortant. Et enfin, un certain nombre de structures culturelles, qui sont des employeurs, ont bénéficié aussi des aides d'État,
oui.
Soit le plan, ce qu'on appelle les PGE, là, les prêts garantis d'État, et le chômage partiel. Ce qui fait qu'avec une baisse de charges et des aides maintenues, voire supplémentaires, eh bien, un certain nombre de structures culturelles reconnaissent qu'elles ne sont pas en danger financier. Je crois qu'aujourd'hui, la plupart le savent et le reconnaissent. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, elles sont confrontées, comme nous à la mairie, sur un problème de vision du futur. Qu'est-ce qu'on prépare? Est-ce qu'on est en train actuellement, je vous parlais de 2 expositions au musée Homme Quai des Savoirs, on est en train de négocier pour essayer de les prolonger. Mais si on les prolonge, on va prolonger ce qui était prévu après. Parce qu'en culture, on travaille au moins 2 ans à l'avance. Et donc, aujourd'hui, ça pose des problèmes de programmation assez compliqués. Et puis, il y a eu, disons-le, une usure morale aussi des gens, parce que faire, défaire, c'est compliqué, c'est pas très, très agréable. Donc, j'ai tendance à dire, à l'instant T, la culture n'est pas forcément en danger économique, elle est en danger de contact avec son public, de manque vis-à-vis du public, et puis surtout, elle manque de visibilité. Et personne n'a la solution miracle, on ne maîtrise pas les conditions sanitaires.
Avant de terminer cette émission, il me semble important qu'on dise un mot sur la situation de Mixart Miris, ce lieu culturel, cet espace de création artistique où réside le collectif d'artistes autogérés du même nom. Le site a fait récemment l'objet d'une visite de la direction de la sécurité civile et des risques majeurs de la ville de Toulouse, qui a émis un avis défavorable concernant la conformité du lieu par rapport aux normes de sécurité permettant d'accueillir le public. Il en résulte donc un risque de fermeture administrative. Évidemment, les membres du collectif Mixart Miris protestent. Un certain nombre d'acteurs culturels et de médias toulousains se sont émus de la situation. Est-ce que vous pouvez nous donner votre version des faits et nous expliquer les raisons qui font que nous en sommes là aujourd'hui?
Écoutez, la visite de la commission de sécurité qui donne un avis indépendant, parce qu'elle inclut y compris les pompiers. Elle était prévue il y a plus d'un an, mais le confinement de mars a évidemment mis par terre tous les programmes. Elle a jugé de manière indépendante que le site était dangereux pour les personnes. Donc ça conduit logiquement à cette décision de fermeture. Il s'agit de la sécurité de la vie des gens. Et bien sûr, un problème de responsabilité pour la collectivité qui est propriétaire des lieux. Donc voilà, les faits, c'est ça.
Alors quelle est la suite qu'on peut imaginer?
Je dirais, tous les établissements qui reçoivent du public, que ce soit des lieux publics ou privés, sont soumis aux mêmes règles de sécurité. Il appartient aux exploitants de se mettre en conformité. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de blocage particulier. Il y a une situation de fait jugée dangereuse. Il s'agit que l'exploitant se mette en conformité avec les textes. Après, s'il y a dans cette période de fermeture des artistes qui auraient des problèmes d'accès ou de besoin de lieux de travail, on a demandé à ces artistes de nous en saisir et on recherchera avec eux les solutions adaptées à ces artistes.
Donc ça peut vouloir dire leur proposer un autre lieu éventuellement pour leurs activités.
On cherchera un autre lieu de substitution. On regardera, comme on l'a dit, au cas par cas, les artistes qui en auraient besoin.
Mais merci pour ces précisions, Francis Grasse. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'en avoir été l'invité, de vous être exprimé sur le dossier MixArt Miris et d'avoir été notre guide à la découverte des propositions culturelles en ligne disponibles sur les sites web et les réseaux sociaux de plusieurs établissements toulousains et métropolitains, à savoir, je le rappelle, le Muséum, le Quai des Savoirs, la Cité de l'Espace, l'Envol des Pionniers, la Halle de la Machine et l'Orchestre National du Capitole, dont le prochain concert avec le pianiste David Frey est retransmis en direct ce samedi 6 février à 18h sur la page Facebook et la chaîne YouTube de l'orchestre. Ne ratez pas ce rendez-vous. Pour avoir plus d'informations, je vous invite à vous connecter au site des établissements que je viens de citer ou éventuellement à celui de Toulouse Métropole, www.toulouse-métropole.com, où vous avez des liens directs vers les uns ou les autres. Ce numéro de Métropole et vous était animé par Éric Dupri, à la technique Francky Guéret. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure et d'ici là, n'oubliez pas, Métropole et vous bien.
Métropole et vous. Métropole et vous.
Métropole et vous. Une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.